Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est deux L.
Bonjour à toutes et tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission de Délivrez-vous avec un livre que j'attendais avec beaucoup d'impatience, sans doute vous aussi, parce que c'est la suite d'une saga, d'une belle aventure d'il y a quelques années avec un auteur que j'aime bien son écriture, sa façon littérale de raconter les choses et surtout de nous passionner avec des héros toujours plus tonitruants dans de belles aventures aussi extravagante qu'extraordinaire. Donc pour ce troisième ouvrage, dirais-je, de cette suite d'America qui a été publié il y a plusieurs années, j'ai le plaisir de recevoir de nouveau Monsieur Romain Sardou. Bonjour. Merci de nouveau d'avoir accepté mon invitation pour ce troisième livre d'America, Un homme averti ne vaut rien, aux éditions XO. Alors, je le rappelle, hein, l'histoire se situait il y a 200 ans. Là, on est aujourd'hui. C'est l'histoire de deux familles, les Batman et les Muir. Et là, nous allons nous retrouver au sein également de deux histoires. On s'aperçoit que finalement, les richesses accumulées par les grands-pères, arrière-grands-pères, c'est toujours entériné par des drames, comment dirais-je, du chantage, les secrets de famille, toujours un petit peu bizarres. Et là, dans ce troisième ouvrage, on est aujourd'hui avec deux personnages qui n'auraient peut-être jamais dû se rencontrer. Alors, parlez-nous de Michael Monroe et de Mathilde Batman.
Batman, oui, c'est ça. Bah oui, parce qu'en fait, ce roman, en fait, n'est pas vraiment la suite d'America, qui fait écho. Aux deux volumes précédents que j'avais publiés il y a 10 ans.
Il y a 10 ans, ouais, déjà.
Et en fait, je à travers ces romans historiques, je racontais les tout débuts des États-Unis, enfin, du même avant les États-Unis, puisque je parlais des colonies anglaises en Amérique.
Tout à fait.
Et pour raconter ces quelques décennies qui ont précédé la guerre d'indépendance et la déclaration des États-Unis, j'ai raconté l'histoire de deux familles, une famille irlandaise et une famille anglaise, qui ont quitté l'Europe pour aller s'installer à la fin du XVIIe siècle en Amérique. Mmh. Et donc j'ai raconté à travers les aventures et les rivalités de ces deux familles, je racontais un peu à la fois comment le pays s'est construit, les idéaux de ces hommes et de ces femmes à cette époque, qui étaient ces gens qui fuyaient l'Europe pour aller reconstruire un nouveau monde, vraiment au sens littéral du terme. Voilà, je m'étais vraiment servi de ces deux familles pour essayer de dresser le portrait le plus juste des premiers temps de ce pays qui sont qui est une aventure historique absolument exceptionnelle, hein, quasi unique dans l'histoire. Mmh. Et donc donc il y avait cette duologie, comme on dit, ces deux romans, La 13e colonie et La main rouge, qui s'axaient sur ces deux familles, les Muir et les Batman. Le tome qui sort cette année là, Un homme averti ne vaut rien, reprend en fait l'histoire de ces deux familles, mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles sont devenues deux siècles plus tard. Et là, en fait, c'est le même effet miroir, c'est-à-dire que je me sers toujours de ces deux familles, mais non plus pour montrer comment ce pays s'est construit, mais où il en est aujourd'hui, et en quoi il aurait fait perdurer l'esprit de ces pionniers, ou trahi, d'une certaine manière, l'esprit de ces pionniers qui ont construit ce pays. C'est où on en est aujourd'hui. Donc en fait, voilà, ces trois livres forment un tout, mais disons que le livre qui vient de sortir, là, peut être lu sans connaître les origines de ces deux familles.
Des deux autres, voilà. Donc il y a les deux héros, il y a bien d'autres personnages. Donc il y a Malcolm Monroe qui est orphelin, qui n'a rien et qui veut tout, qui veut changer de vie. Et puis il y a Mathilde Batman qui, elle, a tout et qui voudrait changer le monde. Moi, j'ai eu envie ça m'a porté une réflexion. Je me suis dit, en fait, ce sont deux solitudes très différentes, de deux mondes très différents qui finalement vont joindre leur énergie pour des causes qu'ils jugent tout à fait nécessaires, dirais-je.
C'est surtout qu'ils sont, pour moi, très emblématiques de leur génération.
Oui.
Ils ont à peine 25 ans, ces deux personnages, et ils sont dans le questionnement,
la quête,
très prégnant dans la génération, c'est-à-dire la génération qui vient, là, ceux qui ont même 14-15 ans, jusqu'à jusqu'à 20 ans, si on regarde un peu autour de nous, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, mais beaucoup aux États-Unis, c'est une génération qui questionne beaucoup l'héritage du monde qu'ils sont en train qui vont recueillir. Mm-hmm. C'est-à-dire que c'est pas une génération qui accepte l'héritage du monde sans rien dire. C'est-à-dire qu'on le voit partout, que ce soit pour le climat, que ce soit pour l'économie, il y a une grande colère dans la génération qui vient par rapport à ses aînés en disant « mais là, quel est le monde que vous nous donnez, la société que vous nous donnez, etc. etc. » Il y a vraiment quelque chose de c'est une génération vigilante et qui donc n'accepte pas, peut-être en tout cas moins que les générations précédentes, de récupérer l'héritage de leur père et leur mère comme si de rien n'était. Mm-hmm. Il y a quelque chose de très attentif, vigilant et suspicieux. Et donc j'ai utilisé ces deux personnages et je les ai mis dans la situation exacte où justement de quel héritage on parle. C'est-à-dire que Michael Monroe, lui, est orphelin.
Oui.
Donc il ne sait pas d'où il vient exactement. Donc sa quête sa quête d'origine n'est pas tout à fait la même que celle de Mathilde Bateman, qui elle par contre appartient à une famille richissime américaine, qui est un peu l'héritière d'un empire comme ça qui s'est construit dans les assurances. Oui. Que vous avez ces grandes familles très très riches qu'on voit beaucoup aux États-Unis. Et elle questionne cet héritage-là. Elle dit, mais très bien, mais moi là je suis en train de recevoir beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir sans rien avoir fait. Et elle va dire, mais d'où vient vraiment ce pouvoir? Et surtout, d'où vient vraiment cet argent? Donc ces deux personnages-là, en fait, vont faire une quête personnelle de leurs origines, chose que vous et moi, enfin que tout le monde, auquel on pense tout le temps, c'est-à-dire qu'on dit tout le temps d'où on vient exactement,
nos ancêtres, le pourquoi, du comment,
de quoi sommes-nous faits.
Tout à fait.
Ces deux personnages-là vont commencer à faire une enquête sur leur passé, et c'est là où le troisième livre rejoint un peu sans en avoir l'air les deux premiers, c'est-à-dire qu'ils vont découvrir l'histoire de leur famille et quel lien il peut y avoir entre eux, de rivalité, de position. Et comme c'est des grandes histoires, des grandes familles qui ont suivi le aux États-Unis, en découvrant l'histoire de leur famille, on découvre aussi toujours un peu l'histoire de son pays ou l'histoire un peu de la société dans laquelle on a grandi. Donc voilà, c'est tout un faisceau comme ça. Mais ce qui m'intéressait beaucoup, c'est cette génération qui vient et qui questionne tout, en fait, qui ne prend rien
comme argent comptant,
ou qui n'accepte rien les yeux fermés. Et je trouve cette position, en tout cas pour des personnages, absolument passionnante.
C'est passionnant et c'est intéressant parce que quand on s'aperçoit comment les gens, il y a 200 ans, peut construire leur fortune, il y a des choses, c'est toujours un peu nébuleux, il y a toujours des choses un peu cachées, on disait, les secrets de famille. Et justement, ces deux personnages-là s'arc-boutent sur ça, sur ces secrets de famille, sur ces non-dits. Ils veulent la vérité et vous le disiez, la génération d'aujourd'hui, ils veulent tout savoir, tout comprendre. Ils veulent la transparence. Et ça, on le ressent très bien au travers du livre, justement. C'est un combat, c'est leur combat, en fait, aussi.
Oui, c'est le combat de cette génération, et de toute façon, c'est un combat qui est légitime, parce que si on regarde bien nos sociétés actuelles, et je parle surtout pour l'Occident, l'Europe et les États-Unis, on est dans des sociétés qui sont en pleine crise d'identité. C'est-à-dire que la mondialisation a fait que ça soit un jeune Français, enfin un Français ou un Américain, il se demande où va son pays et quel va être le destin de son pays dans ce monde qui a tellement changé en 30 ou 40 ans. Donc on est tous, à plus ou moins un certain degré, en pleine crise d'identité. Et donc la génération qui vient, à juste titre, au milieu de cette crise d'identité, est la première à dire qui on est vraiment, ou d'où on vient, ou qu'est-ce qu'on veut, ou qu'est-ce qu'on va construire. Donc vous avez ceux qui font la quête pour essayer de savoir effectivement quelle est leur histoire et d'où ça vient, et ceux qui rejettent tout en bloc, qui disent non, mais moi je repars de zéro, je veux une nouvelle société, je veux un nouveau monde, je veux... Voilà, c'est vraiment, il se passe quelque chose dans l'actualité, en fait, dans nos vies quotidiennes, là, aujourd'hui. C'est amusant parce que ça relève beaucoup de l'histoire, en fait. C'est encore un rendez-vous avec l'histoire. Donc, pour moi qui suis, un fou d'historie...
Un passionné d'histoire,
historique, ça crée pour moi des personnages absolument... ça leur donne des motivations qui me permettent, moi, de faire des jeux de miroir avec l'histoire, que ce soit la nôtre ou celle des États-Unis.
Pourquoi ne pas avoir fait... il y aurait pu avoir vraiment un troisième opus d'il y a 200 ans, c'est-à-dire continuer, mettre... Michael, oui, oui, non, mais bon, avec votre état d'esprit inventif et créatif et surtout aussi d'historien, on pouvait intégrer Mathilde et Michael aussi à la suite, non? Toujours il y a 200 ans. C'est-à-dire à la recherche de leurs racines, mais il y a 200 ans.
Ah oui, sauf que, alors oui, non, je vois ce que vous voulez dire, pardon. Oui, sauf que la question se posait moins à ce
Ouais,
moment-là.
c'est vrai, c'est vrai.
C'est-à-dire que les colons, par exemple, les Français, les Allemands, les Hollandais, les Anglais, évidemment, qui sont allés s'installer en Amérique, entre le moment où ils sont arrivés et le moment où ils sont devenus Américains, parce qu'ils l'ont choisi, parce qu'ils l'ont décidé, parce qu'ils se sont battus pour le devenir, pour être indépendants.
Tout à fait.
D'abord, il y a plusieurs générations, il y a deux, trois générations qui se suivent. Et surtout, comme disait Benjamin Franklin, ce sont des Américains. Ce ne sont plus des Allemands,
Tout
des
à fait.
Français ou des Anglais. Ils
C'est
ont
une
vraiment
nation.
créé
C'est une
une
nation.
identité et je pense qu'ils étaient tournés vers l'avenir complètement. Et pas du tout vers le passé, pas du tout se dire mais d'où je viens exactement. Ce qui est amusant, c'est que comment dire, ce souci du passé, ce souci de l'héritage, il arrivera plus tard en Amérique. C'est plutôt au 19e siècle et au 20e siècle, au contraire, les communautés vont commencer à se redire, mais attendez, on est d'origine irlandaise, on est d'origine italienne, on est d'origine.
Ça fait.
Ils vont les revendiquer. Ça viendra plus tard. Mais au début de ce pays, il y a une vivacité, un envie d'avenir, un envie de créer un monde mieux que que tous ceux qui ont existé avant, qui est très, très, très exaltant. D'ailleurs, quand on lit les débuts de ce pays, les débuts des États-Unis, c'est une aventure absolument.
Oui, c'est tout à fait.
Humaine et intellectuelle absolument galvanisante et géniale, quoi.
Tout à fait.
Voilà, donc non, en fait, juste après, mes deux personnages n'auraient pas pu vraiment exister comme ils le sont aujourd'hui. Et
Oui.
je crois même qu'en fait, ils n'auraient pu exister vraiment qu'aujourd'hui.
Qu'aujourd'hui. Avec
Avec
cette
les
forme de
questions qu'ils
liberté.
posent,
Oui,
ouais, c'est
cette
vraiment,
forme
je
de
pense qu'ils
liberté.
sont
Oui.
ils sont du 21e siècle, quoi, vraiment.
Alors, il n'empêche que vous les entraînez dans des aventures quand même extraordinaires. Ils vont se heurter à des tas de choses parce que bah, ils veulent savoir et puis ils se heurtent à on peut pas trop dire hein, parce que sinon parce que c'est un thriller aussi hein. C'est un roman, c'est un thriller, c'est une recherche, c'est une quête,
C'est une saga familiale, oui,
une saga familiale. Mais
c'était un peu l'idée. Je me suis dit, je vais essayer de marier autant que possible l'esprit de la saga familiale
oui.
et l'esprit du thriller. Voilà, je me dis, voilà, est-ce que ça peut se
Ah
marier?
oui,
C'est
très bien.
un peu ce que j'ai essayé
Très bien.
dans ce livre, quoi.
Très bien. Alors, justement, ces deux personnages, je dirais, de deux univers différents vont se heurter et s'apercevoir que finalement, ils ont des attentes communes.
Ils ont des attentes communes, ils ont un passé commun qu'ils ignoraient,
Oui, mais ça,
totalement.
on ne dit rien.
Et alors après, voilà, alors quand on raconte l'histoire d'un personnage ou d'une famille, se pose toujours la question du déterminisme. C'est-à-dire que est-ce qu'on fait les choses parce qu'on les décide, ou est-ce qu'au contraire, il y a une succession d'événements qui fait qu'on n'avait pas le choix que d'être ce qu'on est ou de décider de ce qu'on a décidé. Et pour moi, en tant que créateur de personnages, on va dire, la question se posait avec ces deux héros. C'est-à-dire qu'effectivement, ils sont indépendants dans le sens où leur quête de sens un peu est inattendue, donc bouscule un peu les choses, puisque des choses vont être révélées qui ne l'étaient plus, enfin bref, il y a des choses qui remontent qui n'auraient sans doute pas dû remonter. Mais après, ce qui est intéressant, enfin, après, ce qui, moi, m'a intéressé, c'est leur réaction. C'est-à-dire que quand ils apprennent les choses, quand ils apprennent ce qui s'est passé, quand ils apprennent en gros qui ils sont, ou du moins qui étaient leurs parents, leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, d'où vient le fait que l'un a été abandonné, d'où vient que
L'autre qu'elle
l'autre
soit très riche.
soit très riche, qu'est-ce qu'ils en font?
Qu'est-ce
Et
qu'ils
c'est là
font
où
de
la
ça?
question se pose, où je dis que peut-être que le déterminisme est souvent un peu plus fort que l'idéal de liberté ou d'autonomie qu'on veut tous avoir les uns les autres, c'est que dans leur réaction, effectivement, eh ben il y a peut-être tout le passé qui remonte. Enfin là, je veux
Non,
pas
mais non,
raconter, mais
c'est oui, c'est
il y a
compliqué. Tu
vraiment
parlais
un
du
moment
livre,
où je me
voilà.
suis retrouvé avec mes personnages en train de me
Oui.
dire, mais alors, comme moi, j'aurais pu, en me mettant à leur place, d'une certaine manière, me dire, mais à ce moment-là, quelle est ma réaction? C'est-à-dire, quand je commence à savoir des choses que totalement ignoré, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je me coupe de ce passé? Est-ce que je le poursuis? Est-ce que j'ai le choix? Voilà, c'est tout le non pas le suspense, mais je veux dire
L'intérêt,
l'intérêt de
l'intérêt.
cette intrigue se noue à ce moment-là, quoi, en fait.
C'est vrai.
Qu'est-ce qu'on aurait fait? Qu'est-ce qu'on aurait fait dans le passé? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui?
Eh bien, ce que nous allons faire dans les quelques petites minutes qui suivent, c'est une petite pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite après.
Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés. car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau m'ont chanté sans faux la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Les amis, je vous dis adieu, je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux que l'Amérique. Je reviendrai, je ne sais pas quand, cousu d'or et brodé d'argent, ou sans un sou mais plus riche qu'avant. De l'Amérique, 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 je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Tous les sifflets de train, toutes les sirènes de bateau ont chanté sans froid la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je l'adorerai. L'Amérique.
Nous nous retrouvons sur l'émission Délivrez-vous pour ces deux ailes avec Romain Sardou pour son dernier roman Un homme averti ne vaut rien aux éditions XO. Alors, votre livre amène à plein de réflexions, mais on peut pas tout dire parce que c'est comme une enquête policière aussi un petit peu. Mais comme vous disiez, une fois qu'on sait les choses, une fois qu'on connaît les choses, qu'est-ce que l'on fait de cet héritage? Je me suis dit aussi, est-ce que au travers de ce personnage, c'est pas de la philosophie à trois balles, mais je suis sûre que je suis pas la seule à m'être posé la question. Est-ce que Romain Sardou, au travers de ce personnage, aussi, de par son histoire, s'est posé aussi les questions au travers de ce personnage? Est-ce qu'il se sent proche aussi de par cette quête? Voilà, on a appris ça. Qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Comment on avance avec ce que l'on sait?
Ben oui, parce que j'allais vous dire, là on parle d'histoire familiale avec ces personnages.
Oui.
On peut faire la même chose avec nos histoires collectives.
Bien sûr.
Et c'est là, on parlait de la crise des sociétés, la crise d'identité que vivent les sociétés aujourd'hui. Mais c'est en fait, quand il suffit de... Enfin, moi, je suis français, donc je suis concerné par l'histoire de France.
Bien sûr.
C'est-à-dire que ce qui s'est passé il y a 10 ans, ce qui s'est passé il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a deux siècles, ça m'interroge.
Bien sûr.
C'est un héritage que j'ai pas spécialement demandé, ou dont je peux être fier, dont je peux avoir honte, tout ça, mais le fait est que on vit avec. Donc c'est pareil, cette question, dès qu'on s'intéresse à l'histoire, on se la pose de plus en plus.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que mon indépendance de réflexion, ou mon goût de la liberté, en fait, ils me viennent de tout un héritage historique de gens qui ont vécu avant, qui sont battus pour telle et telle chose. Ben voilà, il y a rien d'inné, de totalement inné. Donc, s'intéresser à l'histoire de son pays, c'est comme s'intéresser à l'histoire de sa famille. On est obligé à un moment de s'interroger sur qu'est-ce que j'aurais fait sous l'occupation, qu'est-ce que j'aurais fait pendant la Saint-Barthélemy. Enfin, on peut tout imaginer, mais de toute façon, on imagine. Quand on essaye de se raconter l'histoire de ses parents ou l'histoire de ses grands-parents, on l'imagine. On la revit pas. On essaie de comprendre. On fait des bribes de choses et on s'interroge sur aujourd'hui j'ai tel tempérament en tant que mari, en tant que père, en tant qu'ami, en tant que collègue. Voilà, j'ai un tempérament. D'où me vient-il?
On porte en nous l'héritage de toute façon des anciennes générations, ne serait-ce que les cheveux, etc., les yeux, mais il y a le tempérament, les réactions.
Et au-delà de la génétique, il y, il y a peut-être plus que ça. Alors après,
après il y a les douleurs aussi. Vous savez, les douleurs, les familles qui ont, par exemple, il y a eu des examens de fait sur les familles qui avaient été, par exemple, à Auschwitz, dont les parents ou grands-parents avaient souffert. Ils portaient en eux toute cette douleur, cette souffrance.
La psychogénéalogie.
C'est très intéressant.
C'est très intéressant. Et maintenant, on doit tous se poser la même question que je pose à mes personnages, c'est que quand on apprend les choses, qu'est-ce qu'on en fait ?
Oui.
Est-ce qu'on les refoule ? Est-ce qu'on les refuse ? Est-ce qu'on les combat ? Est-ce qu'on les accepte ? Enfin voilà, il y a tout un panel de réactions qui est propre à chacun. Et je trouve que, c'est la grande question, on parle de beaucoup de choses dans l'actualité aujourd'hui, je trouve que c'est une des grandes questions de cette époque.
Oui.
Voilà, pour nos pays occidentaux qui ont une telle histoire, un tel passé, qui sont tellement remis en cause aujourd'hui, en disant voilà, on sait tellement pas ce que l'avenir nous attend, que voilà, cette espèce de crise d'identité ou de ce besoin d'identité, et de surtout qu'est-ce qu'on fait de tout ça, je trouve que c'est vraiment la question la plus, je pense que dans quelques décennies ou quelques siècles, quand les historiens se pencheront sur ce moment
sur notre époque,
de l'histoire, c'est ça qui va ressortir, c'est que d'un coup, il y a un moment où plus personne ne sait qui il est, et s'en inquiète, et voilà, parce que c'est une fois de plus, de ce questionnement-là, de cette fragilité-là, voilà, qu'est-ce qu'on en fait ? On peut en faire des choses très mauvaises aussi, hein. Il y a beaucoup de rancœur, ou de peur, ou de crainte qui remontent, hein, et on le voit autant aux États-Unis qu'en Europe, hein, on le voit beaucoup, donc c'est vraiment la question du moment, je trouve.
Oui. Alors, en lisant votre livre et en repensant aux deux précédents, ça m'a fait penser à une série que j'ai beaucoup aimée, que peut-être vous avez vue, qui s'appelle Outlander. Elle va sur les pierres de Greg Nadun en Écosse, et puis elle replonge 200 ans en avant.
J'en ai entendu parler, mais je ne l'ai pas vue.
Et ça m'a fait penser, je me suis dit, vos deux héros qui donc viennent finalement de deux milieux différents, mais on va pas s'apercevoir que finalement ils sont liés, et qu'elle, avec son histoire, si elle replongeait, elle va sur les pierres de Greg Nadun, elle replonge 200 ans en arrière, et donc elle côtoie ses ancêtres, vous voyez, je me suis dit, regardez, et ça m'y a fait penser, je me suis dit, on replongeait par le passé, est-ce qu'on peut changer les choses, comment on agirait, est-ce qu'on pourrait avoir des réponses pour aujourd'hui ? Alors c'est très philosophique, hein, mais la série aide à poser ce genre de questions.
Ah, mais de toute façon, je trouve que c'est que les questions de demain, les questions d'aujourd'hui ont toujours leur réponse dans le passé.
Oui.
Voilà, ça c'est clair. Au bout de l'histoire, mais plus ça va, plus je vieillis, plus j'en suis convaincu. C'est le passé qui se projette tout le temps dans l'avenir, tout le temps. Donc je pense que c'est important. C'est pour ça que je me méfie. C'est pas le mot du tout, mais chez les très jeunes aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a aussi, pour certains, un blocage sur le passé. C'est-à-dire une espèce d'envie de faire table rase, vous savez, de dire bon, on s'en fout de tout ce qui s'est passé avant, on va faire notre monde à nous. Je caricature un peu, mais il y a un peu de ça quand même.
Il y a un peu de ça quand même.
Ça m'inquiète un chouïa, si je peux me permettre. C'est-à-dire que c'est impossible d'arriver à construire quoi que ce soit si on occulte totalement le passé des uns et des autres, voire le passé collectif.
Complètement.
C'est sûr. Et là, c'est petit signal sur ceux qui veulent démonter des statues pour démonter des statues, ou effacer des livres pour effacer des livres.
Je pense que c'est vraiment pas
la première fois que ça arrive dans l'histoire, ça, et ça n'a jamais donné de bonnes choses.
Parallèle aussi, alors c'est tout à fait anecdotique, mais ça ne l'est pas vraiment, parce que ça signifie quand même une certaine maladie de notre société, changer le titre d'Agatha Christie, Deep Tea Negre. Bon.
Oui, voilà. Alors c'est... encore ça, j'en fais pas un drame.
Non, c'est pas un drame.
Pourquoi ? Parce que en plus,
ça sert à rien.
Elle-même l'avait changé.
Oui, mais bon.
Donc bon, c'est pas tant. Non, moi, ce qui m'inquiète plus, ce serait qu'on dise, il faut plus l'éditer.
Oui, ben oui.
On dit que tel film ne doit plus être diffusé.
Ah ben, il en est question. Il en est question pour certains.
La cancel culture. La culture de l'effacement, effacer des œuvres.
Comme les statues que l'on fait tomber, bien sûr.
Voilà. Ça me plaît pas du tout. Je veux dire, c'est parce que je pense que c'est vraiment pas la bonne. Je vois d'où ça vient, je vois la souffrance et l'objectif des gens qui font ça. C'est-à-dire que c'est pas spécialement mal intentionné, mais ça va pas du tout dans la bonne direction. Je pense. Pas du tout, du tout, du tout. Effacer ou occulter n'a jamais réglé le moindre problème. Ça vaut pour nos vies privées comme pour notre histoire collective.
Au travers de votre livre et de ces deux héros, alors je le rappelle, on peut pas tout dire parce que c'est vraiment quand même une enquête policière, c'est un thriller, il y a plein de choses.
Le fait qu'il n'y a pas de policier.
Il n'y a pas de policier.
Ce qui m'a intéressé, c'est aussi que les petits-enfants interrogent l'histoire, enquêtent sur les grands-parents, les arrière-grands-parents. Mmh. C'est eux qui mènent l'enquête, en fait.
Est-ce que c'était pas aussi une façon pour vous de mettre l'accent sur les choses justement qui vous effraient, qui vous interrogent, en disant attention, voilà, au travers de ces deux personnages, je raconte quelque chose, j'explique quelque chose, mais je veux aussi démontrer quelque chose et vous faire part aussi de mes craintes.
Oui, mais complètement, enfin, en tout cas de mes interrogations.
Oui.
Les craintes, j'en ai pas trop parce que je sais pas pourquoi je suis né optimiste.
Ah ben c'est bien. Bienvenue au club.
Et plus je m'intéresse à l'histoire sur le temps long, plus je pense que les choses s'arrangent. Alors, on n'est pas nombreux dans mon cas, mais moi je suis plutôt optimiste.
Oui.
Donc j'ai pas des inquiétudes folles. Il y a beaucoup de choses qui ne me plaisent pas dans la société, qui sont des résurgences de choses qu'on a déjà vues, ou de voilà, où on se dit oh là là, on recommence encore les mêmes erreurs. Mais sans une inquiétude si folle que ça. Je suis beaucoup moins inquiet que, une fois encore, la génération qui me suit.
Oui, tout à fait.
Qui, elle, a une vraie peur de la fin du monde, une peur de la j'y crois pas à ça. Mais en revanche, effectivement, je vois les choses changer. Des fois pour le bien, des fois pour le moins bien. En l'occurrence, pour l'histoire des États-Unis, puisque c'est beaucoup lié à l'histoire des familles de mes héros.
Oui.
Effectivement, on voit une différence énorme entre les Américains d'aujourd'hui et les Américains d'il y a deux siècles.
C'est clair. Ah ben ça, c'est certain. Et
la première des choses qui, moi, m'a frappé, c'est que, voilà, ils ont toujours eu le respect et le goût des anciens, les Américains, et surtout le respect de ceux qui avaient formé ce pays, encore sous la présidence de Kennedy. Souvenez-vous de ce discours incroyable qu'il avait fait pour la conquête spatiale.
Complètement.
En disant, voilà, nous allons poursuivre de nouvelles frontières, essayer de passer de nouvelles frontières. Ces nouvelles frontières, c'était un hommage aux pionniers qui allaient comme ça de l'Est à l'Ouest au 19e siècle pour découvrir de nouvelles terres. Enfin, il y avait vraiment cet esprit pionnier américain.
Complètement.
Il était porté, il était vécu, il était respecté. Et je trouve, mais ça c'est mon point de vue, que depuis, on va dire, une grosse vingtaine d'années, cet esprit des pionniers est, comment dire, c'est devenu un slogan en Amérique. J'ai l'impression qu'ils n'y croient plus eux-mêmes et qu'en fait, on en entend beaucoup parler dans les campagnes politiques, par les hommes politiques, par tout ça. Mais c'est devenu, je pense qu'un président Kennedy y croyait vraiment.
Oui, sans doute.
Je pense que plus personne n'y croit aujourd'hui. Et qu'il y a une espèce comme ça de c'est ce que dit un de mes personnages à un moment, c'est qu'on a l'impression un peu qu'il y a une espèce de somnambulisme, en fait, où on continue à répéter des choses, à croire des choses, mais que honnêtement, un pionnier américain rencontrerait un américain d'aujourd'hui, je pense qu'il se comprendrait plus.
Oui, sans doute.
Et ça, je trouve ça, c'est un peu, après, c'est l'histoire des pays, hein, il n'y a pas de pays éternel, donc les choses changent, les choses évoluent, les sociétés...
Les hommes changent.
Mais je trouve que, voilà, pareil, dans les 20-30 dernières années, il y a un basculement en Amérique qui fait que l'Amérique est de moins en moins l'Amérique. Voilà, donc
c'est un état de fait.
Et voilà, je trouvais intéressant par rapport à tout ce que j'avais raconté dans les premiers tomes,
de mettre l'accent sur ça
aujourd'hui, et de dire voilà à peu près ce qui historiquement a changé. Voilà, c'est pas tant moi qui défend une thèse,
oui tout à fait,
voilà, je vous montre, c'est presque factuel, hein. Oui, regardez, ça se passe tu vois, un pays qui s'est fondé sur l'immigration et qui aujourd'hui construit des murs,
c'est
rien que ça déjà, on se dit bon, il y a quelque chose qui
Mais bon, tout dépend de qui ça vient aussi. voilà. En espérant que ça change. En tout cas, c'est mon point de vue. Vos prochains projets d'écriture, rassurez-nous, vous allez encore écrire et nous ravir de votre plume.
Écrire, c'est sûr, vous ravir,
je vous l'assure.
Non, je vais publier là au mois de novembre un nouveau conte de Noël.
Ah oui, elle m'en a parlé, super.
C'est une série que j'aime beaucoup, là. J'en ai déjà fait trois, donc j'en sors un quatrième qui s'appelle Les Noëls oubliés.
Très bien.
Qui sort en novembre. Alors, en novembre, je ressors aussi mon tout premier conte, qui avait été publié il y a 15 ans, qui s'appelait Une seconde avant Noël, et que j'ai réécrit cet été.
D'accord.
Donc il y aura une nouvelle version améliorée.
Et bon, on vous retrouvera au moment juste avant les fêtes de Noël, Romain Sardou, alors.
Ah bah, avec plaisir. Voilà, vous aurez cette actualité. Sinon, je prépare un autre roman, mais là pour octobre 2021.
D'accord. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir pour Un homme averti ne vaut rien aux éditions IXO. On vous retrouvera avec grand plaisir pour ces contes de Noël. En tout cas, merci beaucoup. J'enjoins vraiment chacune et chacun de lire ce livre parce que c'est très intéressant et ça permet aussi de se poser les questions sur soi-même, peut-être un regard en arrière, de se poser et d'essayer de répondre, en tout cas de faire un bilan peut-être des choses aussi. C'est pas mal.
C'est pas mal des fois.
Bah,
merci beaucoup, en tout cas, merci infiniment et à
une prochaine
bientôt.
Fois, à très bientôt.
Merci,
au revoir.